On revient avec Samar Mussiamani, ergothérapeute et candidate au doctorat en sciences de la santé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, comment ça va?
Oui, bonjour Élisande, ça va très bien et toi?
Ça va très bien, merci. Vous nous parliez de la vie sexuelle des personnes en situation de handicap. Vous avez développé, entre autres, des guides à cet effet. Mais avant qu'on parle de ça, j'ai envie de parler quand même de votre parcours en tant que femme en sciences.
Oui, oui. Bien moi, en fait, j'ai grandi auprès de parents là, qui étaient dans le domaine de la santé. Puis ça m'a inspirée quand même à suivre les traces de mes parents, donc aller moi-même en santé. Donc, je suis ergothérapeute clinicienne. Je travaille au CLSC de Chicoutimi. Puis, c'est en rencontrant ma directrice de recherche dans le cadre de mes études, donc professeure Cynthia Gagnon, qui est directrice de la recherche scientifique ici aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean, que j'ai décidé que j'allais poursuivre en recherche en sciences de la santé. Donc, c'est vraiment elle qui m'a inspirée, là, ce début de carrière-là. Donc, j'ai eu la chance d'avoir un beau modèle de femme en sciences.
Oui, voilà une passation de femme en femme.
Oui, exactement.
Et vous avez quand même beaucoup poussé là, pour les femmes en sciences, pour ouvrir des portes, là, parce qu'on sait que des femmes en sciences, disons plus en sciences naturelles, c'est quand même quelque chose là, qui est moins vu, qui est moins accepté. Il y a beaucoup moins de femmes aussi au doctorat. Là.
Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des obstacles ou des défis là, que les femmes rencontrent, ne serait-ce qu'on pourrait en nommer juste par rapport au congé maternité, l'impact que ça peut avoir sur une carrière,
oui.
L'accès à des promotions. On pourrait parler aussi du nombre plus limité, malheureusement, de modèles féminins. Puis je trouve ça important d'en parler. Puis j'ai été vraiment reconnaissante d'obtenir un prix dans ce domaine-là parce que pour moi, je me considère comme un exemple même de ce que ça peut avoir comme impact d'avoir des modèles féminins. Moi, je pense pas que je me serais rendue en recherche si j'avais pas eu justement professeur Cynthia Gagnon, ma co-directrice également, là, Nathalie Bière, à l'Université de Montréal, qui m'ont un peu montré que c'était non seulement possible de faire la recherche en tant que femme, mais de performer puis d'obtenir des reconnaissances puis de dépasser ces limites-là. Donc, c'est vraiment un sujet qui est important pour moi.
Il y a aussi que la recherche en ergothérapie, c'est peut-être moins connu. Hein? Quand on rentre en ergothérapie, on pense être clinicienne, là, j'imagine. Je me souviens, moi, d'avoir fait un peu le saut en comprenant qu'il y avait des recherches aussi au doctorat en travail social, par exemple. Pour moi, des travailleurs sociaux, c'est des gens de terrain. Donc, c'est effectivement quelque chose qui est peut-être un peu moins mis d'avant. Hein.
Absolument. Moi, j'avais jamais eu l'intention, comme je disais, là, de faire de la recherche. Puis, non seulement en ergothérapie, mais en plus en maladies rares. Tu sais.
Oui.
Donc, c'était vraiment un domaine que je ne serais pas attendue de pouvoir autant m'épanouir parce que c'est tellement, ça semble tellement gros, ça semble tellement compliqué, plein d'obstacles. Mais finalement, quand on a du soutien comme j'ai en ce moment, on peut vraiment faire des belles choses. Donc.
Et parlez-nous donc de votre sujet ou un de vos sujets de prédilection, là, la vie sexuelle des personnes en situation d'handicap, puis à quel point vous souhaitez briser les tabous par rapport à ça?
Ben oui, parce que moi, je suis ergothérapeute, puis pour nous, les activités, c'est ce qui est le plus important. Il y a un concept qu'on parle beaucoup là, en ergothérapie, on appelle ça la justice occupationnelle. Donc l'accès, tout le monde a le droit à avoir accès à des activités, mais aussi de répondre à des besoins fondamentaux. Puis la sexualité, malheureusement, on a tendance à penser que de par le fait que certaines personnes en situation de handicap ont des difficultés, ben ils pourront pas avoir accès à de la sexualité. Fait que pourquoi en parler? Pourquoi pour nous le couteau dans la plaie? Souvent, c'est les espèces de mythes qu'on entend.
Ou qui n'en ont pas besoin, en fait, aussi.
Oui, ou qui n'en ont pas besoin. Donc, on l'abordera pas dans les soins de santé, on l'abordera pas nulle part. Alors que, au contraire, c'est important de comprendre que la sexualité, là, il y a autant de sexualités différentes qu'il y a d'êtres humains sur la Terre, là. Fait que, c'est bien plus que juste la pénétration ou l'acte sexuel. Ça peut être l'intimité, les relations amoureuses, l'affection, les caresses. Donc, il y a vraiment un grand champ d'intervention qu'on peut faire. Puis, c'est important de l'adopter, de l'adresser, parce que n'importe quelle personne, qu'elle ait des déficits ou pas, a ce besoin-là. Ou ne serait-ce que désire avoir accès à ce besoin-là, puis qu'on l'aborde, puis qu'on le valide. Puis il y a des choses qu'on peut faire là pour favoriser la sexualité pour tout le monde. Donc,
oui,
c'est bien important pour moi.
Pardon, les personnes en situation de handicap se rendent compte que même s'ils ont parfois des déficiences intellectuelles, par exemple, ils peuvent quand même voir qu'autour d'eux, bon, les autres sont en couple, les autres ont des activités de couple, des activités sexuelles parfois, et qu'eux aussi veulent voir, tu sais, normaliser un peu leur vie et avoir accès à ça, là.
Absolument, absolument.
Et donc, parlons-nous du guide de pratique en ergothérapie pour favoriser la sexualité et la vie amoureuse des adultes présentant une maladie neuromusculaire. C'est très poussé hein, comme guide, mais c'est un guide auquel vous avez participé, entre autres, en tant que doctorante. Est-ce que vous voulez nous en parler un petit peu?
Avec plaisir. C'est mon plus grand plaisir de parler de ce projet-là. Moi, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu en lien avec ça. Là, moi, j'avais pas l'intention de faire de la recherche. Mais à la maîtrise professionnelle en ergothérapie, on a des directeurs de recherche qui nous proposent des projets de recherche juste pour avoir un premier contact. Puis moi, quand j'étais étudiante en ergothérapie, c'est ce projet-là que professeur Tinsa Gagnon a m'a proposé à moi et mon équipe. Fait que c'est là que j'ai pu découvrir que la recherche, ben c'est pas juste des chiffres puis devant son ordinateur puis des données, c'est bien au-delà et ça a un impact concret sur les patients. Donc, c'est vraiment le projet qui m'a démarré en recherche. L'idée venait vraiment de ma directrice, là, professeure Gagnon, là, a fait beaucoup de conférences auprès des patients, puis c'était quelque chose qu'elle abordait. C'était une des rares conférencières qui parlait de la sexualité. Puis quand elle a commencé à l'aborder, elle s'est aperçue qu'il y a beaucoup de gens qui étaient à l'écoute et qui en demandaient plus. Donc, elle a réalisé qu'il y avait un grand besoin là, au niveau d'adresser la sexualité.
Effectivement, il y a quand même peu d'outils là, qui sont développés.
Absolument. Il n'y a pas beaucoup. On ne l'aborde pas tant, tu sais, pour les personnes atteintes de certaines maladies elles-mêmes, mais aussi les parents d'enfants qui ont une difficulté, qui ont une maladie, un diagnostic, une condition X. Donc, c'est pour ça qu'elle a décidé d'aller creuser plus loin, d'aller voir dans la littérature qu'est-ce qui existait là en ergothérapie et en sexualité. Et il n'y avait pas grand-chose. Donc, on a vraiment mis en place ce projet-là qui était de partir, oui, d'une recension de la littérature, qu'est-ce qui avait déjà été fait, mais aussi d'aller chercher l'expertise d'ergothérapeutes qui, eux, l'abordent ou, eux, travaillent en maladie musculaire. Donc, c'est vraiment un guide qui a été basé sur l'expertise de nos cliniciens d'un peu partout au Québec, qui a permis de maintenant un peu regrouper toutes les solutions, les façons d'évaluer, qu'est-ce qui a déjà été, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, pour vraiment que ça soit un outil qui est gratuit, disponible en ligne, puis n'importe quel ergothérapeute qui veut au moins, même on demande même, il y a même une section du guide qui est dédiée à comment l'adresser la première fois à la sexualité, parce que c'est pas chose facile pour n'importe qui. Donc, vraiment une belle ressource qu'on a conçue là, avec mes 5 collègues, puis tu sais, professeur Cynthia Gagnon aussi. Puis, c'est un point de départ pour n'importe quel clinicien qui veut ne serait-ce que commencer à aborder la sexualité.
Et ça va être bientôt traduit en anglais. Vous avez eu une subvention quand même récemment.
Oui, mais en fait, c'est le fait. On l'a lancé, ça fait peut-être un mois. Okay. Oui, on est vraiment chanceux parce que quand on a lancé le guide en français, bien, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de gens anglophones, au travers, par exemple, de l'Association canadienne des ergothérapeutes, même des gens à l'international. Donc, moi, j'ai présenté l'impact de la sexualité sur la qualité de vie aux Pays-Bas auprès d'experts qui, eux aussi, voulaient avoir ces informations-là.
Oh, quand même, hein?
Capables de, oui, pour pouvoir enfin en parler. Donc, on a poursuivi, grâce à Eustache Canada, on a obtenu une subvention, puis on a pu le traduire, puis le valider avec des ergothérapeutes anglophones pour que ça soit adapté à la pratique canadienne. Puis, on le rend disponible, encore une fois, gratuitement, là, pour offrir des pistes de solutions à tout ergothérapeute qui veut en parler.
Et ce qui me frappe, c'est vraiment le besoin universel. Hein? Les gens se retrouvent avec peu d'outils, avec un tabou à démystifier, avec des questions de la part des patients ou des gens qui vivent avec ce type de condition-là. Ils ne savent pas trop où aller. Hein? Il y a vraiment un besoin qui est universel à travers tous les pays, peu importe les langues ou les cultures, en fait.
Absolument. Puis, tu sais, personne ne sait vraiment qui devrait en parler en premier. Est-ce que c'est moi l'intervenant? Je veux-tu briser mon lien de confiance? Parce que là, il n'était pas prêt à cette question-là. Les patients, ils se demandent, bien, si mon intervenant, il pourrait m'en parler, il l'aurait fait. Fait que je ne l'aborderai pas. Fait qu'il y a vraiment comme une espèce de tabou qui est autour de ça. Les cliniciens ont peur d'ouvrir une boîte de Pandore. Donc, poser la question, puis finalement, il y a plein de besoins, puis on n'est même pas capable d'aider la personne qui s'est finalement livrée à nous. Donc, il y a vraiment une espèce de tabou, puis il y a beaucoup de restrictions. Fait que c'est un outil parmi tant d'autres qui permet de rendre ça plus facile, puis de rendre les services liés à la sexualité beaucoup plus accessibles pour les personnes qui vivent avec un handicap.
Madame, Monsieur Benny, merci d'avoir été avec nous. Si on veut consulter donc le guide, où est-ce que c'est disponible?
Je vous invite à la façon la plus simple, mais il y a plusieurs méthodes, bien, d'aller voir le GRIM.ca, donc le G-R-I-M comme maman, N comme, bien, en fait, M comme maladie et N comme neuromusculaire, donc le GRIM.ca. Puis dans la section outils, on a tous nos guides. Il y en a un également en physiothérapie. Donc pour les physiothérapeutes qui veulent aborder la sexualité. Donc tout est disponible sur ce site.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous et on vous souhaite bonne chance pour la suite de vos recherches et pour évidemment là, continuer d'ouvrir des portes aux femmes en sciences. Merci de votre implication.
Mais merci à vous, merci pour la plateforme, ça me fait toujours plaisir. Donc bonne journée à tous.
Merci, bonne journée.